Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
La campagne de vaccination continue dans l'Ain. On fait le point sur son avancée avec l'Agence régionale de santé.
Reportage au centre de vaccination de l'hôpital Fléria avec le personnel soignant.
Ils ont plus de 75 ans. Vont-ils se faire vacciner ? Témoignage.
Et pour mieux comprendre ce nouveau vaccin et son importance, nous avons interrogé un infectiologue et un vaccinologue.
Radio B. Radio B.
Dans l'Ain, la première phase de vaccination a débuté le 7 janvier.
Elle concerne le personnel soignant âgé de plus de 50 ans et les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée. La vaccination se fait sur la base du volontariat. Le département de l'Ain a reçu pour l'instant 10 000 doses de vaccins. La moitié de ces doses sont à destination du centre hospitalier de Fléria. Jeudi 7 janvier, l'hôpital a inauguré son centre de vaccination et nous y étions.
Du coup, je vous pique au bras gauche, monsieur Macombe.
D'accord, allez-y.
Et il faudra, après on verra aussi pour prendre le rendez-vous pour dans 3 semaines.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ça serait le 28 janvier pour faire le rappel.
Ça marche.
Et donc, docteur Robert Lacombe, actuellement, je suis président du Conseil de l'Ordre des médecins.
Vous venez de vous faire vacciner, pourquoi ce choix?
Les vaccins, c'est un traitement, c'est une prévention. Et donc, jusqu'à présent, on a vu disparaître des maladies comme certaines méningites, la polio, le tétanos, la variole aussi. Et donc, c'est un médicament qui permet de traiter et d'éviter que l'épidémie perdure. Nos confrères attendent le point de départ de cette vaccination et plusieurs et même très nombreux m'ont téléphoné en me demandant quand est-ce que ça commence, encore ce matin. Si jamais on n'est pas vacciné, la maladie ne disparaît pas. Et j'ai un autre exemple, c'est que quand dans mon activité, j'avais beaucoup de personnes qui venaient de l'étranger et qui n'avaient pas la chance d'avoir les vaccins. Et la première chose qu'ils nous demandaient, c'est d'être vaccinés.
Docteur Pénétra, c'est également pour l'exemplarité. Je pense que il est important que les médecins généralistes et les médecins en général montrent l'exemple pour inciter les patients à la vaccination. Avant qu'on atteigne l'immunité de groupe, il faut vacciner énormément de Français, mais au moins la moitié des Français. Donc il y a vraiment urgence à vacciner très vite et à faire adhérer les Français à la vaccination.
Alors, je m'appelle Caroline Tataille, je suis médecin responsable du centre de santé publique, centre de vaccination. Ce qui m'a été attribué comme rôle était d'organiser du coup la filière vaccination avec le parcours patient, le respect du secret médical, le respect de la traçabilité, du secret de confidentialité. Et du coup, c'est un parcours patient qu'il a fallu organiser sur une bonne semaine pour que qu'on puisse commencer de façon graduelle aujourd'hui notre vaccination. Il faut quand même une mise en route qui est complexe parce que ce sont des flacons multidoses. Et pour optimiser les doses, respecter le transport, la chaîne de froid, ça demande une préparation pour laquelle les autres vaccins n'en demandent pas habituellement.
Frédérique Labrogoubi, directrice du centre hospitalier de Fléria.
Est-ce que vous pouvez nous dire le cheminement du vaccin, en fait, tout le cheminement qu'il fait ici?
Alors, le vaccin, c'est en ça que c'est complexe hein, comme opération. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui doit être stocké à moins 80. Donc, Fléria a eu, comme 99 autres établissements de santé sur le territoire, la livraison d'un frigo géant pour pouvoir effectivement stocker ces vaccins. Par la suite, on est obligé, quand on les sort du congélateur, de les maintenir quand même à une certaine température. Et ils ont une volatilité très rapide, donc on ne peut pas les laisser plus de 5 jours sans être à moins de 80. Donc il faut qu'ils soient administrés très rapidement aux patients, sinon il y a un risque de déperdition. L'enjeu de la vaccination, outre le fait de couvrir le maximum de population cible, c'est de ne pas gâcher du vaccin. Donc c'est pour ça que ici on fonctionne sur rendez-vous pour être sûr que le volume de personnes qui doivent être vaccinées correspond au nombre effectivement de doses qu'on va mettre en place et réorganiser. Sinon, le risque, c'est qu'on perde du vaccin. Or, on sait aujourd'hui la difficulté que ça a été sur la commande publique et sur la livraison de ces vaccins. C'est un bien précieux. C'est un bien de santé en plus, donc c'est pour ça qu'il exige de telles conditions. Donc voilà, ça explique aussi toutes les contraintes et les conditions logistiques qui sont mises en œuvre. Mais aujourd'hui, l'Ain est prêt à pouvoir vacciner effectivement à minima aujourd'hui cette première population cible.
Quels sont les grands enjeux pour les hôpitaux en général de toute cette campagne de vaccination ?
On se doit de pouvoir recueillir le consentement des résidents, des professionnels aussi, hein, puisqu'il n'y a aucune imposition, vous le savez, le gouvernement n'a pas fait le choix d'être sur une vaccination obligatoire. Donc les professionnels, il faut les convaincre aussi, hein, mais sur des arguments rationnels et scientifiques. Hein, ils ont quand même beaucoup vu l'impact sur les résidents et les patients. Donc il y a un enjeu aussi là-dessus à démontrer que ça, pour le milieu hospitalier, que ça changera, j'espère, pas très rapidement, parce qu'on est assez réaliste hein, sur ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Assez rapidement, je dirais, pour nous donner aussi plus de sérénité, en fait, hein, sur revenir, je dirais, à une activité un peu plus normale, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, parce que je rappelle que toutes les contraintes qui ont pesé sur les hôpitaux ces derniers mois, avec la déprogrammation des activités notamment, fait qu'aujourd'hui, où nous on est en termes de reprise chirurgicale, on a souhaité effectivement mettre l'accent là-dessus. Dès qu'on le pouvait, c'est très complexe parce qu'on a une demande qui est très importante.
Et du côté des EHPAD qui dépendent de Fleria, ils sont 1600 résidents à pouvoir se faire vacciner. D'autres EHPAD privés font aussi la vaccination, comme au Jardin de Brou. Une cinquantaine de résidents a accepté. La moitié a déjà reçu la première dose. On écoute le directeur de l'EHPAD, Frédéric Signabou, et Alexandra Lucotte, la médecin coordinatrice. Comment s'est organisée cette campagne de vaccination à l'EHPAD des Jardins de Brou ?
Eh bien, donc nous, on a eu la chance en fait d'être sollicités par l'ARS c'est le 24 décembre pour organiser les premières doses de vaccination en avant-première, entre guillemets. Donc on a dû un peu s'organiser rapidement pour récupérer les consentements des résidents ou de leurs familles pour ceux qui ne sont pas en capacité de donner leur consentement. Et au moment de la première vague de vaccination qu'on a effectuée le 8 janvier, on a pu effectuer donc 25 doses pour 25 résidents.
Donc tout le monde a dit oui.
Alors tout le monde n'a pas dit oui, on a eu quelques refus. À ce jour, donc on a pu recueillir la consentement de la plupart des gens, on est à 80% d'accord.
Au niveau de la logistique, comment ces doses arrivent ? On sait que c'est un vaccin qui doit être conservé à une température très froide. Comment ça se passe ?
Non, en fait, à partir du moment où ils sortent des super congélateurs, on a 5 jours pour les reconstituer et les utiliser. Donc ça a été une logistique qui a été mise en place et organisée par l'ARS. C'est la pharmacie référente qui a reçu en premier lieu les doses de vaccin et qui nous les a transmises aussitôt pour qu'on puisse les conserver au réfrigérateur en fait pour 5 jours. En gros, on a reçu les doses de vaccin le 7 janvier et on a vacciné le 8.
Pour faire la deuxième dose, vous n'avez pas les vaccins en ce moment ?
Pour l'instant, on n'a pas les vaccins.
Et donc les doses qui vont arriver fin janvier, ce sera plus tôt ? Pour les personnes qui ont déjà reçu la première dose, comment ça va se passer l'organisation ?
Eh ben, idéalement, donc ce sera en gros, on va faire une journée complète pour vacciner pour la première dose tous ceux qui n'ont pas été le 8 janvier. Et puis on fera une deuxième journée pour les 25 résidents qui ont déjà été vaccinés.
Cette campagne de vaccination, qu'est-ce que ça représente pour votre EHPAD ?
Ben, nous, ce que ça représente, c'est la chance de pouvoir avoir. En tout cas potentiellement une immunité collective, donc ça c'est ce qu'on recherche, sachant que nous jusqu'à présent, et je vous dis ça en toute modestie, on touche du bois tous les jours en fait, on a eu la chance de ne pas être touché ni par la première ni par la deuxième vague épidémique, donc c'est vrai que pour nous c'est plutôt plutôt une chance donc en termes de prévention quoi. Donc c'est vrai que quand l'ARS nous a contacté pour faire partie des établissements pilotes sur le département, autant vous dire que j'ai pas hésité une minute. Hein. Donc en concertation avec mon équipe, mon équipe de soins et puis Alexandra Lucotte, on en a discuté ensemble et puis on a validé donc le principe de faire partie des premiers établissements en effet qui pouvaient bénéficier de cette vaccination.
Et donc ces vaccins, ils arrivent, donc c'est l'ARS qui décide. Est-ce que vous faites confiance à cette institution ou est-ce que vous avez peur qu'il manque des vaccins et que vos résidents ne soient pas vaccinés ou n'aient pas leur deuxième dose ?
Non, honnêtement, moi je fais confiance depuis, nous faisons confiance. Depuis le début, nous on a plutôt un partenariat qui est vraiment, vraiment efficace. Et puis, l'ARS organise les choses aussi en fonction des différentes difficultés qu'il peut y avoir à des niveaux peut-être un peu plus haut de distribution. On travaille vraiment en confiance parce que si on commence à rentrer dans la défiance, déjà qu'il y en a pas mal, on tourne en rond, quoi. Donc, nous on préfère, Et puis jusque-là, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison d'être défiant, quoi qu'il en soit.
C'était Frédéric Signabou, directeur de l'EHPAD des Jardins de Brou à Bourg-en-Bresse.
Du côté des pompiers, on se vaccine aussi.
La campagne a débuté le 14 janvier au SDIS de l'Ain. Elle est proposée aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de plus de 50 ans ou à risque. Plus de 800 sapeurs-pompiers sont concernés par cette mesure. 150 rendez-vous ont déjà été planifiés.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Et la phase 2 de la vaccination, ça commence ce lundi 18 janvier.
Sont appelés à se faire vacciner les plus de 75 ans et les plus fragiles, avec des maladies particulièrement graves, comme ceux atteints de cancer ou porteurs de trisomie 21. Au niveau national, ça représente, selon le ministère de la Santé, 6,4 millions de Français, soit près de 900 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes et entre 80 et 90 000 Indinois. Des professionnels de santé, des résidents d'EHPAD ont commencé à se faire vacciner à partir du 7 janvier. Parmi les conditions pour le faire, ne pas avoir eu le Covid depuis moins de 3 mois. Le point sur ces premiers jours de vaccination. Catherine Malbos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'Agence régionale de santé de l'Ain. La campagne de vaccination contre le Covid-19 dans l'Ain a été lancée le 7 janvier. Combien de personnes vaccinées à ce jour dans l'Ain ?
Je pense qu'on est de l'ordre peut-être de pas loin 1000 professionnels et premiers résidents qui ont pu être vaccinés dans le département. Donc les professionnels ont répondu favorablement à cette campagne de vaccination. Concernant les résidents, il y a les conditions d'éligibilité par rapport au fait notamment de ne pas avoir eu la Covid depuis moins de 3 mois, ce qui fait que dans nos EHPAD qui ont malheureusement été pas mal touchés sur la seconde vague, nous avons un potentiel de vaccination qui n'est bien sûr pas l'ensemble des résidents. Donc la démarche est plutôt engagée à ce stade et c'est des personnes qui pourront au fur et à mesure rentrer dans le dispositif.
Pfizer BioNTech a annoncé des retards pour sa production de vaccins. Moderna, l'autre vaccin aujourd'hui autorisé, a une production plus faible. Alors quel impact pour la vaccination dans l'Ain ?
Alors c'est vrai que sur ce qui a été annoncé sur les retards de livraison concernant effectivement le premier vaccin, c'est surtout cette semaine qui va être impactée, enfin la semaine là que nous démarrons, semaine du 18. Et donc à partir de la semaine prochaine, les livraisons seront à nouveau honorées selon le rythme qui avait été prévisionnel qui avait été donné au ministère de la Santé. Donc la difficulté, elle est plutôt sur cette semaine, sachant que compte tenu qu'on a eu un démarrage un petit peu progressif des campagnes de vaccination et des ouvertures des centres, je ne pense pas que sur cette semaine, on ait de difficultés majeures. Tous les rendez-vous qui ont été pris pourront être honorés.
Donc pas de souci pour les vaccinations cette semaine. Est-ce que c'est la même chose pour ceux qui vont devoir bénéficier d'une seconde injection ?
Cette perspective d'une seconde injection est pris en compte justement dans la gestion des stocks disponibles de vaccins. Dès lors qu'ils arrivent au niveau du lieu de stockage, eh bien évidemment c'est intégré dans la projection qui est faite de l'utilisation des vaccins.
Donc ce que vous dites pour résumer, c'est que les rendez-vous seront pris en conséquence en fonction des vaccins disponibles pour permettre cette seconde injection.
Oui. En général, lorsque les personnes se présentent dans le centre de vaccination, le second rendez-vous leur est donné en même temps.
Catherine Malbos, pour terminer, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots les démarches à faire pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner ?
Je vous invite à regarder sur santé.fr. Sur santé.fr, vous avez à ce moment-là la possibilité de rentrer votre domicile. Vous serez à ce moment-là orienté vers le centre le plus proche de ce domicile. Et à partir de là, vous avez à la fois les coordonnées téléphoniques de ce centre et en même temps la possibilité d'accéder à une prise de rendez-vous en ligne, donc avec un lien qui vous est communiqué. Dès lors que les personnes n'ont pas accès à santé.fr, vous avez la possibilité de voir soit avec votre mairie, soit avec les acteurs de votre territoire, puisque les uns et les autres, y compris la presse, ont largement eu l'information des centres qui s'ouvraient. Ils sont au nombre de 3 pour l'instant dans notre département, probablement d'ici fin du mois 6 avec un supplémentaire qui viendra ouvrir sur Ambérieu-en-Bugey, un autre dans le pays de Gex, vraisemblablement à Gex, et enfin un dernier sur la côtière lyonnaise, donc sur Miribel. Donc à chaque fois dans ces localités, bien évidemment, y compris les municipalités, peuvent relayer ces numéros de téléphone pour ceux qui ne peuvent pas utiliser d'autres modes de connexion.
Catherine Malbos, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Agence régionale de santé de l'Ain.
Catherine Malbos appelle au civisme de chacun pour ne pas encombrer les plateformes téléphoniques ou en ligne. Et elle ajoute qu'il est nécessaire d'attendre l'ouverture à la vaccination pour sa tranche d'âge. Catherine Malbos l'assure, tous ceux qui le souhaitent pourront se faire vacciner dans le premier semestre.
Plus de 18 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin en Auvergne-Rhône-Alpes. Dès ce lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans vont pouvoir se faire vacciner contre le coronavirus. Alors vont-elles le faire ? Nous avons demandé à 3 burgiens et burgiennes, Marie-Rose, 76 ans, Anne-Marie, bientôt 75 ans, et Mamed, 83 ans. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ?
Oui, je suis déjà inscrite. Je vais me faire vacciner le 3 février, je crois.
Donc pourquoi vous avez choisi de vous faire vacciner ?
Pour moi, la vaccination, je crois, sera la seule solution pour sortir de cette situation. Et moi, je veux faire vacciner en me disant, bon, peut-être qu'il y aura des séquelles, je n'en sais rien, mais vu mon âge, des séquelles dans 20-30 ans, il n'y aura pas grand effet me concernant à 76 ans. Hein. Dans 20-30 ans, je serai peut-être plus ici. Et puis surtout, moi, je pense aux jeunes. Il y a des jeunes sans emploi, il y a des jeunes qui ne peuvent pas travailler, il y a des jeunes qui, les étudiants qui sont en perdition. Et bon, alors on va continuer longtemps comme ça, on va où ? Je me dis, il n'y a pas d'autre solution.
Est-ce que vous allez vous faire vacciner ?
Je ne souhaite pas me faire vacciner pour l'instant. Je ne suis pas anti-vaccin, mais je suis pour le choix des soins pour son corps et de sa manière de vivre les choses. Et je n'empêche personne d'y aller. Je ne prends aucun médicament, je suis en bonne forme, j'ai un corps qui va bien et j'ai pas du tout envie de mettre quelque chose dedans. Si j'ai pas envie de me faire vacciner aussi, c'est aussi parce que je n'ai pas encore suffisamment confiance dans les produits qui sortent maintenant, les produits vaccinaux. Il y a toujours un risque à se faire vacciner. Comme pour toute chose, dès qu'on avale un médicament ou quoi que ce soit, on a une liste très longue d'effets secondaires possibles. Ben, c'est pareil pour le vaccin. C'est pareil pour le vaccin contre la grippe. Je n'ai jamais pris la grippe et je ne me suis jamais fait vacciner.
Est-ce que vous allez vous faire vacciner ?
Au début, quand ils ont mis le vaccin, j'ai hésité. J'ai dit non, je ne vaccine pas parce que c'est un vaccin qui était fait rapidement et il n'est pas au top, quoi. Il n'est pas au point. Puis au fil de temps, on me dit, bon, qu'est-ce que je risque, moi ? Je ne suis pas malade, je n'ai pas de maladie qui est grave ou qu'il y a des risques, moi je vais me faire vacciner. Comme j'ai vu pas mal de gens qui sont vaccinés, qu'ils ont eu pas mal, ça s'est pas mal passé, je dis pourquoi pas moi, je rentre dans l'aventure quoi.
Et est-ce que vous avez pris rendez-vous déjà?
Non. Ça, c'est le problème. Pour prendre rendez-vous, il faut voir sur Internet. Et là, il faut attendre les enfants quand quelqu'un vient chez moi pour lui demander de me prendre un rendez-vous sur Internet.
Et la prise de rendez-vous peut en effet se faire sur Internet via les plateformes Maya, Doctolib, Keldoc ou encore la plateforme du gouvernement santé.fr. C'est notamment le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui s'en charge. Vous pouvez aussi appeler le 04 74 45 40 76. La vaccination se fait à Fléria, au centre de santé publique et à la maison médicale de garde. Pour l'instant, la prise de rendez-vous semble être saturée à Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Belley. D'autres centres de vaccination vont ouvrir dans le département, comme à Amberieu, Bugey, Miribel et Gex.
Seuls les vaccins de Pfizer et de Moderna sont utilisés à ce jour en France. Ils utilisent la même technologie, l'ARN messager.
Et pour mieux comprendre leur fonctionnement, nous sommes avec le docteur Alessandro Diana, pédiatre en Suisse et expert à Infovac, une plateforme d'information sur les vaccins. Bonjour docteur Diana.
Bonjour.
Depuis le 27 décembre, une campagne de vaccination est lancée en France contre le coronavirus. Et c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech qui a été choisi pour commencer cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne ce vaccin?
Alors c'est un vaccin, un nouveau vaccin qui utilise une nouvelle technologie qui est tout de même connue depuis plus que 10 ans maintenant, qui implique les messagers ARN. Alors en gros, c'est quoi le messager ARN? C'est le code. C'est une cassette code, on va dire, qui, une fois qu'il rentre dans notre cellule, va instruire la machine cellulaire à faire une protéine. Alors que le Covid, on va dire en soi, il est fait de 27 protéines, et donc il a 27 codes, 27 messagers ARN pour construire la protéine. Le vaccin, l'ingéniosité de ce vaccin, c'est de prendre justement une cassette codante, qui est celle de la protéine S, qui va nous donner l'immunité. Donc en fait, on injecte dans notre organisme un code qui dit à nos cellules de faire uniquement la protéine S, donc pas les autres protéines du virus, de sorte que notre système immunitaire puisse ensuite faire les anticorps, c'est-à-dire la protection contre cette protéine S. Et là, je profite peut-être aussi de rassurer le public, mais aussi beaucoup de professionnels de la santé, de dire que le vaccin RNA, donc cette fameuse cassette codante qui dit à notre cellule de faire la protéine S, ne va jamais dans le noyau, c'est-à-dire ne va pas dans le noyau de nos cellules. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour ce qu'on peut appeler une mutagénèse, c'est-à-dire d'une altération de notre génome. Le messager RNA reste seulement dans un compartiment de la cellule qui est le cytoplasme. Comme si, imaginez un œuf, le jaune d'œuf étant le noyau, le blanc étant le cytoplasme, et ben ce code mRNA reste que dans le cytoplasme, c'est-à-dire que dans le blanc, on va dire, de l'œuf, et pas dans le jaune, qui est notre noyau. Et au bout de 2 jours, il est digéré.
Ce vaccin, il devait amoindrir au moins les effets de la maladie. Comment il va nous protéger en fait? Est-ce que on va contaminer quand même, mais c'est juste qu'on aura moins les effets de la maladie?
Alors ça, c'est une excellente question. Ce qu'on a pu, dans cette course finalement, des données aussi, il faut bien l'avouer, on a pu vérifier que le vaccin protège les personnes vaccinées. Donc il y a un bénéfice individuel. Pour l'instant, on n'a pas d'évidence que les personnes qui ont été vaccinées permettent de ne pas transmettre le virus à d'autres personnes. Cela dit, l'expérience qu'on a jusqu'à présent avec les personnes vaccinées contre une maladie virale, contre un virus, on a toujours observé un arrêt de la transmission. Mais puisque la science, on doit y aller par les faits, c'est le cadre analytique de la science, on attend d'avoir des données solides, et là maintenant on commence à les avoir, parce qu'on n'a plus dans le monde que 20 millions de personnes qui ont été vaccinées. Et l'étape suivante, et chose qui serait intéressante, c'est de pouvoir déterminer effectivement avec des preuves que les personnes vaccinées, en fait, contribuent à arrêter la transmission. Et ça sera une donne très importante, parce que ça voudra dire que pour l'instant, on a des arguments d'offrir cette vaccination, de la recommander aux personnes qui la désirent, bien sûr, elle n'est pas obligatoire, parce qu'ils ont un intérêt personnel, individuel, mais le jour, on va dire, où on aura la preuve que, les personnes vaccinées permettront l'arrêt de la transmission, c'est vrai que là, peut-être, on aura aussi un devoir, on va dire, collectif, si j'ose dire, de dire, ben, si je me vaccine pas seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Une chose peut-être qu'il vaut aussi la peine de signaler, c'est que bien sûr, le risque, disons, de mortalité ou de complications est moindre chez les personnes plus jeunes, mais il n'est pas nul. Et très probablement un fardeau qu'on va voir une fois qu'on aura peut-être réglé le problème de la mortalité, de la surcharge, de la capacité sanitaire, c'est qu'il y a quand même une entité maintenant qui se profile et qui est bien déterminée, c'est celle du long Covid. Qu'est-ce que c'est le long Covid? Alors, c'est les personnes qui ne sont pas décédées du virus, mais qui présentent des séquelles à long terme, qui peuvent aller même à quelques mois, à quelques années, que ce soit une toux résiduelle, que ce soit un déconditionnement physique, que ce soit aussi des troubles au niveau cérébral. Et tout ceci pour dire que probablement le vaccin aura peut-être aussi un intérêt, une fois qu'il est disponible, on va dire, à large échelle pour tout le monde, pour offrir cette protection dans le long Covid également à une population en bonne santé et plus jeune.
La méfiance est quand même grande face au vaccin en général et surtout celui-là avec cette nouvelle technologie. Donc en France et en Suisse, on voit qu'il y a quand même des chiffres inquiétants sur la méfiance envers les vaccins. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre aux gens qui pensent que ce nouveau vaccin est arrivé vite?
Alors, ma réponse est c'est normal d'hésiter et c'est légitime d'hésiter. Si vous m'aviez posé la question sur les vaccins mRNA moi-même il y a moins que 4 mois ou encore 4 mois, j'aurais répondu avec beaucoup d'hésitation. C'est des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et l'être humain, quand il ne connaît pas quelque chose et quand il est face à une nouveauté, il se met en doute et c'est complètement légitime. Donc mon message, c'est d'abord d'accepter l'hésitation vaccinale, d'accepter le doute. Et après, la question est de dire, ce n'est pas parce que j'hésite et je doute que je dois aller aux conclusions. Donc là, c'est aussi de dire attention. Le fait que j'hésite, le fait que j'ai un doute, ça ne me donne pas de conclusion. Ça doit juste me permettre de me mettre en réflexion et de dire qu'est-ce que je dois faire. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on hésite et quand on a un doute? C'est de l'information. Donc moi, mon message, que ce soit pour le public et ou pour les professionnels de la santé, c'est clairement plus d'informations et moins de peur.
Et donc vous, comment vous avez enlevé ce doute? Vous vous êtes renseigné, vous avez lu plein de choses?
C'est ça. Alors c'est vrai aussi que, comme me disent certains collègues, ils me disent « oui, mais toi, tu es vaccinologue et clinique, tu as la chance d'avoir fait ça tous les jours ». C'est vrai, parce que j'étais un peu au front, disons, des ressources d'informations, de voir un peu l'information. Et c'est grâce à l'information, c'est-à-dire quand j'ai lu les 100 pages, et je les ai vraiment lues, hein, du document Pfizer, qui donne toutes les explications, tous les détails, moi, c'est ça qui m'a convaincu.
Et dans donc ces 100 pages que vous avez lues, quelles étaient les grandes lignes qui vous ont rassuré, si vous pouvez résumer pour ceux qui ne vont pas lire ces 100 pages?
On a fait des études qui ont d'une part démontré l'efficacité, mais aussi d'autre part montré une sécurité. Et peut-être ça vaut la peine de préciser que dans le développement de la vaccin, par exemple, le profil, la barre, si j'ose dire, du profil de sécurité est très très élevé, et même plus élevé pour certains médicaments, parce qu'il ne faut pas oublier que le vaccin, on le propose à des personnes en bonne santé. Alors qu'un médicament, par exemple un agent de chimiothérapie pour un cancer, les personnes peuvent déjà plus accepter des effets secondaires parce qu'ils ont déjà une maladie de base. Et effectivement, ce qu'on voit avec et ça nous a bluffé, hein, parce que moi-même j'étais hésitant avant de voir toutes les études, on voit effectivement que le profil de sécurité, bien sûr à 4 mois de distance maintenant, il est vraiment très très élevé avec ces vaccins mRNA. La barre, elle est très haute. On a vu que, alors, il y a des effets secondaires hein, avec ces vaccins, ne serait-ce que l'injection, ne serait-ce que la réaction locale, avec les hématomes qu'on peut avoir. Le système immunitaire doit travailler, donc on peut avoir des symptômes qu'on peut définir de symptômes grippaux, on peut avoir de la fièvre pendant les 36 premières heures, on peut avoir des maux de tête. Ce sont des effets secondaires de bas grade. Ensuite, on a aussi vu qu'il y a eu des personnes qui peuvent faire des effets secondaires graves, comme des réactions allergiques, comme l'anaphylaxie. Mais quand vous regardez dans le contexte, actuellement, on a une vingtaine de cas de personnes qui ont fait une allergie grave, certes, sur une vingtaine de millions de personnes vaccinées. On sait aussi que toutes ces personnes avaient une prédisposition à une allergie. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui peuvent mourir s'ils mangent du céleri ou s'ils prennent une aspirine. Et que toutes ces personnes ont toutes survécu parce qu'on a pu traiter leur infection. Donc oui, bien sûr, il peut y avoir des effets secondaires graves, mais heureusement, ils sont rares. Il faut les tenir en compte, il faut le mettre tout dans la balance. Et puis après, individuellement, de dire, voilà, une personne, par exemple, de 80 ans qui, si elle attrape le Covid, a 15% de chances de décéder. Mais si cette personne de 80 ans, elle a eu des graves allergies, il s'agit là de faire une évaluation du bénéfice-risque pour cette personne, de dire bah, qu'est-ce que est le plus important, quel risque je prends. Est-ce que je prends le risque d'un effet secondaire du vaccin et j'essaie de le pondérer. Est-ce que je prends le risque d'attraper le Covid en sachant dans quelle catégorie je me trouve et avec quelle probabilité même d'en décéder.
Merci beaucoup, docteur Diana. Je rappelle que vous êtes pédiatre en Suisse et expert InfoVac, la plateforme d'information sur les vaccins.
Le professeur Imad Kanso est infectiologue dans les Hauts-de-Seine. Il revient sur l'importance de cette campagne de vaccination.
Bonjour, professeur Imad Kanso.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair à la PHP de Clamart. Quelle est l'importance de cette campagne de vaccination pour contrôler la pandémie?
La grande importance de cette campagne, c'est que si on arrive à atteindre une immunité dans la population, peut-être qu'on fera barrière à la propagation du virus et de toute façon, dans l'immédiat, à titre individuel, les personnes auront peut-être, même si on ne peut pas le démontrer pour l'instant, mais si jamais ils rencontrent le virus, ils ne vont pas donc développer des maladies et des formes graves qui vont justement soit saturer les services hospitaliers, soit justement venir à causer donc une pathologie sévère, voire la mort chez des personnes fragiles. Et moins fragile, parce que ça peut arriver aussi à des personnes moins âgées, sans comorbidité.
Et est-ce que cette vaccination, ça suffit pour arrêter cette pandémie?
Alors, non. Pour l'instant, non, ce n'est pas possible de dire ça, dans la mesure où lorsqu'on a une maladie infectieuse à caractère épidémique, et on en a connu beaucoup de maladies comme ça par le passé, depuis des années, des décennies, il faut en fait que la population, que les individus d'une part développent une réponse immunitaire durable, efficace, et que en nombre important, ça dépend des maladies contagieuses, au-delà de 60%, 70%, 80% de la population, ça dépend des infections, ce pourcentage de personnes atteignent effectivement une réponse immunitaire et donc soient immunisées. Ce qui se passe donc, c'est que on va mettre beaucoup plus de temps parce que vous comprenez bien qu'il y a des résistances, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de démarrage et que tous les pays n'auront pas forcément accès à des vaccins. Et donc, c'est un processus un peu lent et déjà on ne l'a pas atteint malgré l'ampleur de l'épidémie par les voies naturelles, c'est-à-dire par l'infection naturelle. Certains pays l'avaient proposé et avaient préféré atteindre, ne pas garder des mesures barrières et ne pas, pour atteindre l'immunité collective, et ça n'a pas marché. Donc depuis des mois qu'on est dans cette pandémie, on n'a pas réussi à atteindre une immunité importante dans la population. Donc par la vaccination, on peut y arriver, mais ça va être lent. Donc ce n'est pas suffisant parce qu'il faut maintenir les mesures barrières, maintenir les mesures que nous connaissons actuellement classiques port de masque, lavage de mains, solution hydroalcoolique, distanciation sociale, pour éviter que donc des personnes non immunisées, non encore vaccinées, soient malades, donc contractent l'infection et éventuellement une pathologie sévère.
Des cas de mutation, on en a vu, notamment qui provenaient du Royaume-Uni. Est-ce que les vaccins qu'on a choisis en France fonctionnent malgré tout ?
On a répertorié au-delà de 17 000, à peu près 18 000 maintenant, variants du virus. Tous les virus mutent naturellement. Donc une mutation ne doit pas nous faire peur en soi. Parce que c'est un événement très fréquent chez ces organismes. Donc, ils mutent néanmoins, beaucoup moins. Des milliers donc des mutations sont connues. Ces mutations, pour la plupart, ont été répertoriées ou en grande partie au niveau de la surface virale, au niveau des picots, ce qu'on appelle en anglais les spikes ou spicules, qui permettent au virus de s'accrocher aux cellules de l'humain, de l'hôte. Jusqu'à présent, beaucoup de ces mutations sont recouvertes encore par les anticorps produits après la vaccination. Ce qui se passe quand on vaccine une personne, il y a différents types d'anticorps qui sont produits par la personne vaccinée ou la personne qui contracte le virus. Et donc le nombre d'anticorps d'une part très varié vont peut-être se recouper, recouvrir cette surface, ces picots, ces spikes de virus, pouvant donc l'empêcher d'aller envahir des cellules pulmonaires et donc d'envahir et de causer la maladie. Ces mutants, pour l'instant, semblent être couverts par les anticorps et donc par la vaccination. Si, par malheur, on retrouvait une souche qui ne répond pas à la vaccination, il y aurait quand même un espoir, c'est qu'avec les technologies récentes développées, qui ont été développées, ces technologies de l'ARN messager, on peut très rapidement modifier, changer le fusil d'épaule, modifier la structure du vaccin de telle sorte qu'il soit apte à couvrir le virus mutant. Mais justement, si toute la population, une grande partie, se fait vacciner et qu'on arrête ou qu'on diminue la circulation du virus en complément des mesures barrières, les mutations ne vont pas apparaître ou vont être moins fréquentes et donc on va plus rapidement stopper la circulation virale. Donc en fait c'est une course contre la montre, en ce sens que on doit accélérer la vaccination, on doit se faire vacciner en masse pour que justement des nouvelles souches beaucoup plus virulentes, mais beaucoup plus épidémiques, qui se transmettent beaucoup plus vite et qui sont mutantes, ne puissent pas se développer et donc qui puisse échapper à la vaccination.
L'OMS a indiqué qu'il n'y aurait pas d'immunité collective en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'OMS est un organisme international. Donc, il veille sur la santé mondiale. Et donc, il pense au fait qu'il y a des pays qui n'ont pas forcément accès à des vaccins. La vitesse de vaccination et l'ampleur de la vaccination est différente d'un pays à l'autre. Et donc, il est évident pour l'OMS qu'avec la circulation des humains par les moyens de transport développés, les moyens modernes, les populations, toutes ne seront pas, n'auront pas atteint, en fait, des différents pays, une immunité collective. Parce que le rythme de vaccination est différent, parce que tout le monde n'a pas accès au vaccin, et parce que le virus continue de circuler. Donc à l'échelle mondiale, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer que d'ici la fin de l'année, on aura atteint une immunité collective. Et comme je vous le disais au début, à l'échelle d'un pays, c'est jouable, mais seulement si effectivement l'immunité et la population se fait vacciner au-delà de 65%. Ce pourcentage est difficilement à atteindre au niveau mondial d'ici la fin de l'année.
Merci beaucoup, professeur Imad Kanso. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair, APHP de Clamart.
Et l'immunité du vaccin face au coronavirus devrait être atteinte en 3 semaines après la 2e injection. Elle doit durer au moins 6 mois, selon les données du gouvernement.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Lundi prochain, le 25, rendez-vous à 18h pour un numéro spécial JL Bourque.
Les Burgiens joueront ce mercredi 20 janvier leur premier match à domicile en Eurocup, compétition européenne de basket. Un match à huis clos, donc sans public, mais nous y serons. Retrouvez le reportage lundi prochain.
Et d'ici là, bonne semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.